L'âge bête sur RCN.
Bonjour, très heureux de vous retrouver dans l'âge bête. Bonjour l'équipe.
Salut.
Allez, on retrouve une petite partie de l'équipe. Il nous manquera Lucie encore cette semaine qui n'a pas pu venir aujourd'hui. On retrouve Clovis, comment tu vas?
Ça va, ça va et toi?
Content de revenir dans les studios?
Avec plaisir.
On va faire un petit tour des gens qui m'accompagnent et de leur chronique. Nous aurons le duel de génération, Ottilie, cette semaine.
C'est les écrivains et sur le même principe que les deux dernières semaines.
Les plus jeunes et les plus vieux.
C'est ça.
Juste avant, nous aurons la chronique histoire de Clément qui nous parle.
On va parler Amérique.
Très bien, on part en Amérique. Et puis après, la chronique écologie.
On va parler des gros pollueurs dans le monde.
Très bien, qui pollue le plus en fonction des pays et puis des entreprises, bien sûr. Alors du coup, je reprends le quiz de culture générale comme les deux dernières semaines de Lucie. Juste après, l'artiste de la semaine, Naïm, c'est...
On va prendre une inspiration, Angsty Cowboys Revenge.
Voilà, je le prononcerai pas parce que sinon ça va être compliqué. Juste après, nous aurons ton énigme, Alan.
Exactement, j'espère que vous avez bien mangé, que vous avez pas faim parce qu'on va parler de bouffe.
Ah, très bien, bon, les 14h, normalement ça va. Et Clément, la citation, c'est une citation
C'est un film.
D'accord, voilà, bon, ce sera sur un film.
Tout ce que j'ai à dire.
Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30 sur RCN.
RCN, l'âge bête.
Et on commence avec ta question habituelle, historique, Clément.
Voilà, et on va parler du premier planisphère qui a porté l'inscription America. Mais d'ailleurs, est-ce que vous savez de quand il date, ce premier planisphère
qui affiche l'Amérique? Je sais, je l'ai vu à l'école.
Bah oui.
Je sais.
C'est pour ça que je demande. Hein.
1500 quelque chose, non?
Ouais.
Oui.
T'es pas loin, Anime?
20? 520?
Non. Moins. Moi, je vois juste le prix.
15?
C'est ça.
Moins.
12?
C'est moins.
10?
3? C'est moins.
7?
C'est exactement 7. Ça, voilà. 1507. Donc, le premier planisphère représentant l'Amérique au sens propre, hein, donc, c'est-à-dire avec le nom Amérique dessus, eh bien, c'est celui de Martin Watzemüller. Martin Watzemüller donc la réalise en 1507, non loin d'ici, puisque ce fut à Saint-Dié-des-Vosges, dans le massif vosgien. Le cartographe a choisi d'appeler le continent Amérique en hommage à Amerigo Vespucci, celui qui s'est vraiment rendu compte que le Nouveau Monde n'est pas l'Asie, comme Christophe Colomb le prétendait en 1492. La carte en elle-même s'intitule Universalis Cosmographia, puisqu'elle ne représente pas seulement les Amériques, mais plutôt la Terre entière. Cette carte, elle fait partie d'un livre de 103 pages, lui, intitulé, pour faire plus court, parce que le titre, il est à rallonge, hein, Cosmographiae. Alors, me demandez pas ce que ça veut dire en latin, j'ai arrêté le latin il y a longtemps. On peut dire que le planisphère a des origines déodaciennes, hein, donc de Saint-Dié-des-Vosges, de Haute-Assienne, Saint-Dié-des-Vosges.
Je ne savais pas qu'on disait comme ça.
On en apprend tous les jours. Puisque deux des quatre impressions originelles furent réalisées dans la cité vosgienne. Pour l'anecdote, cette carte, elle est aussi la première à avoir été réalisée avec la technique de l'imprimerie, ou en tout cas l'une des premières. Pour vous donner la taille de la carte, elle faisait 43 cm sur 59 cm.
Et cette carte, elle est très novatrice. Elle présente son lot de nouveautés.
C'est ça, donc le planisphère, il est incurvé afin de représenter la Terre et ses distances réelles. Alors quand je dis incurvé, c'est que il est rond. Vous savez, il y a des planisphères qui sont à plat et il y a ceux qui représentent un peu tourné comme ça. C'est ce que j'appelle par incurvé. Donc ça en fait l'un des premiers à être réalisé comme tel. Les traits du continent américain restent approximatifs, hein, mais puisque cela fait seulement 15 ans alors que l'on connaît le Nouveau Monde. Comme on pourrait le dire. Et même si Watzemüller s'est servi des cartes marines, il n'a pas pu représenter à la perfection les côtes pacifiques pour la simple et bonne raison qu'elles étaient encore alors inconnues. Les côtes de l'Ouest sont donc très rectilignes. Ainsi, la carte ne représente pas l'isthme du Panama, c'est-à-dire le détroit du Panama, mais comme personne n'en connaissait alors l'existence, je pense qu'on peut l'en excuser.
Oui.
Cependant, le Vosgien était imaginatif ou chanceux, on pourrait dire les deux, je pense. Puisque on peut retrouver sur la map monde la cordillère des Andes, alors même que le massif montagneux sud-américain était alors inconnu. Selon des historiens, eh bien, il aurait placé ces montagnes par instinct, ce qui est tout de même notable, je pense. Enfin, après des siècles d'errance, il ne reste plus qu'une seule carte encore connue, qui était originelle. Elle se trouve à la bibliothèque du Congrès des États-Unis à Washington. En effet, les États-Unis, dans leur grande splendeur, la voient comme l'acte de naissance de l'Amérique. Il existe ainsi tout de même à Saint-Dié-des-Vosges une fresque murale qui entretient la mémoire de Martin Watzemüller.
Et voilà, on aura voyagé jusqu'à Saint-Dié-des-Vosges et aux États-Unis, c'est pas mal. et en Amérique pour parler histoire et donc le planisphère de Waldseemüller. Allez, on parle maintenant duel de génération avec toi, Ottilie. Tu nous parles des écrivains les plus jeunes et les plus âgés quand ils ont commencé à écrire.
C'est ça. Donc déjà, est-ce que vous connaissez donc des écrivains célèbres lorrains?
Oui, lorrains. Ouais.
Lorrains.
Alors lorrains. Il faudrait déjà en connaître tout court.
Non, mais non, on va pas faire semblant.
Ok, bon. Alors, un très célèbre.
Il y en a ?
Oui, j'en ai trouvé surtout deux. Paul Verlaine.
Ah, donc, oui, d'accord.
Voilà, donc c'était un écrivain célèbre. Bon, il a surtout été poète et il a été connu pour ses poèmes saturniens. Mais je vais pas m'attarder dessus. Donc, je vais vous parler d'Erckmann Chatrian. Donc, en fait, ce sont deux Mosellans qui ont écrit ensemble et séparément. Donc les deux, ils sont nés respectivement en 1822 et 26. Donc ce sont deux amis qui se sont rencontrés vers 47 et qui ont commencé à publier des feuilletons dans le Démocrate du Rhin. Et trois ans plus tard, donc c'est pas mal plus tard, c'est en 1859 qu'ils deviennent reconnus et ils écrivent des nouvelles et des contes fantastiques. Donc ils finissent par se séparer. Ils n'ont pas les mêmes idées. Erckmann, il écrit toujours des romans. Et Chatrian, lui, faisait le théâtre. Donc maintenant, je vais vous parler donc, d'André Schwarzbart. Donc il est né en 1928 à Metz, donc d'un père polonais et une mère suisse. Donc ses études, elles ont été écourtées par la Seconde Guerre mondiale, qui aura raison de ses parents et de l'un de ses frères, qui ont été tous déportés. Donc il va s'engager dans la résistance, il reprendra ses études à la Sorbonne après la guerre. En 1959, il a publié « Le dernier des justes ». C'est un roman qui reçoit le prix Goncourt la même année. Il aura été très critiqué quand il écrira avec sa femme un ouvrage sur les Antilles, « Un plat de porc aux bananes vertes », qui recevra quand même le prix Jérusalem. Et il est mort en Guadeloupe en 2006.
D'accord.
Maintenant une femme, Anne-Sophie Bram. C'est une donc jeune écrivaine, elle est née en 84 à Metz. Elle s'est faite connaître avec son premier roman « Respire » qui retrace une amitié toxique entre deux adolescents, donc elle l'a écrit en 2001. Il connaît une adaptation cinématographique du même nom. Et depuis, elle a publié trois autres romans et c'est toujours les mêmes éditions, les éditions Fayard. Maintenant, je vous parle de Léon Werth. Donc, il est né à Remiremont en 1878 et il a fait des études en hippocagne au lycée Henri IV. Il les a arrêtées pour se consacrer à la critique d'art et à l'écriture. Donc, il s'est engagé dans la guerre de 14-18, qui l'a fortement marqué et il en a écrit « Clavel soldat » et « Clavel chez les majors », deux livres qui ont fait scandale. Il a ensuite continué d'écrire contre le colonialisme, le stalinisme et le nazisme. En 1931, il se lie d'amitié avec Saint-Exupéry, qui lui dédicacera Le Petit Prince. Mmh. Et donc, il mourra à Paris en 1955. Et pour finir, Jean-François de Saint-Lambert, donc c'est un poète du XVIIIe siècle. Il a débuté ses études au collège de Pont-à-Mousson et il a servi les gardes Lorraine. Pour rendre jaloux son ancienne maîtresse, il entretient une relation avec Émile du Châtelet. Sa mort, elle va détériorer pendant quelques temps ses relations avec Voltaire, donc l'amant d'Émilie du Châtelet. Il se consacra à la poésie et son succès lui permettra d'accéder à l'Académie française. Voltaire juge ses poèmes saison de génie, mais Diderot et Grimm les trouvent vides. Il meurt de mélancolie à Paris.
C'est beau. Tout en poésie. Merci, Ottilie, pour ce duel de génération. Du coup, comme la dernière fois, là, les écrivains jeunes, c'est fait. Les plus âgés, c'est la semaine prochaine.
Et c'est exact.
Oh là là. Quel teasing. Allez, on revient dans quelques instants. On reparlera donc écologie avec toi, Clovis. On parle des plus gros pollueurs dans le monde, les pays et les entreprises, donc. Et puis après, donc, je reprends le quiz de culture générale de Lucie. Juste après, nous aurons l'artiste de la semaine de Naïm. Passez une très bonne après-midi à l'écoute d'RCN. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment. Did you capture it? Just
slay, slay. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choke. He's so mad, but he won't give up. No, he won't have it, he knows. His whole back's at these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his health in the music, the moment you own it. Your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. His soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows. He's grown farther from home, he's no father. He goes here goes the cold water. These hoes don't want him no more. He's cold product. They moved on to the next mo who flows. He knows dove and sold nada. So the soap opera is told. It unfolds. I suppose his old partner, but the beat goes on. That it up, that up. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment. Change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no no Mekhi Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to want to stay in one spot. Another damn monotony has gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mama love you, but this trail has got to go. I cannot grow old and say shot, feet fail me not. This may be the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better.
Il est 14h et presque 15 minutes sur RCN et désormais on va parler écologie avec toi Clovis. Donc finalement tu nous parles des plus gros pollueurs, tu as trois exemples.
Tout d'abord concernant les émissions mondiales de CO2 dans l'atmosphère, on a atteint cette année les 40,6 milliards de tonnes de CO2. Donc déjà selon vous quels sont les plus gros pollueurs ?
En termes
de
pays ?
Ouais, Chine. États-Unis, Chine.
Alors le top 3 c'est Chine, États-Unis, Inde.
Inde ? Voilà. Ah oui.
Donc oui, parce que l'Inde se rapproche de la Chine. Et sinon, en fait, dans le top 7, le 7e, c'est l'Allemagne, donc un pays européen. Donc sinon, dans le top 3, la Chine est responsable de 33% des émissions de CO2. Les États-Unis, c'est 13% et l'Inde, 7%.
Quels sont du coup les plus gros pollueurs du monde en 2023, d'Europe en 2023?
Comme j'ai dit juste avant, en fait, c'est l'Allemagne qui émet le plus de CO2 parmi les pays membres de l'Union européenne. Donc l'Allemagne, c'est un quart des émissions de CO2 dans toute l'Europe. Et il y a aussi un facteur à prendre en compte. Donc les pays les plus pollueurs par habitant, donc c'est le Qatar, le Koweït et l'Arabie Saoudite. Donc tous les pays du Proche-Orient. Il y a aussi la question de l'empreinte écologique d'un pays. Donc ça correspond à la pression qu'exercent les hommes sur la planète en fonction de l'exploitation, etc. Donc, par titre de comparaison, il y a Singapour. C'est le pays avec la plus faible capacité biologique mondiale et qui a une empreinte écologique égale à 89,5 fois sa capacité que son territoire lui permet. En fait.
Ah d'accord, ok.
Voilà, donc, ça surexploite un petit peu. Donc, sur tout ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bah, d'ailleurs, j'ai envie de savoir, mais parce qu'on a tous une vision différente de l'écologie, mais pour moi, il est grand temps de remettre l'église au centre du village, car non, la France n'est pas le pays le plus pollueur au monde, n'est pas la cause principale du dérèglement climatique, on est l'un des pays qui fait le plus d'efforts. Je pense
en comparaison au niveau
que les grands responsables fassent leur mea culpa, et moi j'en ai marre que on nous fasse une culpabilisation permanente et qu'on essaie de nous infliger une repentance permanente de la part de certains États et certaines personnes, et comme le disait Valérie Pécresse, j'ai le dos large, mais faut pas charrier.
Exact. Pour une fois, elle nous fait rire, c'est bien.
Oui.
Non, mais c'est vrai, par habitant, la France est assez en recul. Mais est-ce que pour autant... Enfin, je sais pas, quel est votre avis autour de ça?
Je pense qu'on a intérêt à le faire, nous, parce que c'est pas la Chine qui va le faire, en tout cas, c'est sûr. Donc,
oui, c'est sûr. Oui. Bah, vis-à-vis de ces réouvertures de centres de charbon, même l'Allemagne, nous, il ne faut pas oublier qu'on a un parc énorme, un parc nucléaire énorme, même s'il dysfonctionne, on a le plus grand parc nucléaire d'Europe, il me semble.
Bah, tu sais quoi, le nucléaire, ça vaudra aussi une chronique éventuellement.
Bonne idée, Martin.
Merci, Clovis, pour cette chronique écologie. Allez, on est un petit peu à la bourre, mais c'est parti pour le quiz de culture générale. Culturons-nous un petit peu. Allez, c'est parti. Quel est le plus long mot de la langue française en termes de syllabes?
C'est anticonstitutionnellement.
Ouais, ouais. Il y a des trucs.
J'ai cru au piège au début.
Rallonge là.
J'ai cru au piège.
Avec 25 lettres.
Ouais.
C'est ça.
Et tu parles en termes de syllabes.
Oui, je sais. Mais alors, écoute, c'est pas moi qui ai écrit les questions. J'ai récupéré. Combien de femmes Henri VIII a-t-il eu?
6.
Je sais
pas. 6. Qui a dit 6?
Je l'avais, celle-là.
Alors, tu peux nous les citer?
Oh bah non, il y a Anne Cleves.
La première c'est Aragon.
Ouais.
Catherine d'Aragon. La deuxième c'est Anne Boleyn. La troisième c'est Jane Seymour. La quatrième c'est Anne of Cleves là.
Ouais,
la cinquième c'est Catherine Howard. Et la dernière c'est une Catherine encore.
Catherine Parr. Oh, mais dis donc, voilà. Bravo, ça mérite un point. Ouais, ça mérite un point.
Ouais.
Évidemment. Quel animal est l'emblème du Royaume-Uni?
Le lion.
Ouais.
Comment se nomme le célèbre paquebot qui a fait naufrage en 1912?
Oui, le Titanic. Après la question, c'est mieux, Alan.
Tu l'avais suffisamment.
Voilà, il avait dit quel célèbre paquebot. Il a même pas fait
paquebot Titanic.
Bah justement, on va rester au Royaume-Uni. Quelle est la monnaie du Royaume-Uni?
La livre sterling.
Exactement. Bon, alors là, débrouille-toi, Alan, pour savoir qui.
Tilly avait commencé à prononcer avant, et puis après c'était le bordel, donc je lui ai
dit. Quel est le plus gros département français en termes de superficie?
L'Occitanie?
C'est pas l'Eure?
Non,
pas
le
département.
Non, je l'ai pas entendu.
Non.
Le.
C'est la Lorraine?
Non, département.
Non, on a la circonscription la plus grande de France, mais. Non,
c'est la Gironde, avec une superficie de quasiment 11 000 km² avec 535 communes et 33 cantons. Oui, quelle ville. Ah bah tiens, elle l'a écrit pour moi, je crois, cette question. Quelle ville a construit le premier métro?
Paris.
Oui. Bah non.
Londres. Dans le monde. J'étais resté sur la France aussi.
En 1863, c'est que 1900, Paris. Je vais vous refaire un petit cours après l'émission. De quel côté de l'assiette doit-on poser le verre à vin?
Droite.
Gauche.
À droite, oui, c'est exactement.
Elle, j'ai une réponse.
Et puis, une dernière question. Quelle est l'héroïne de Notre-Dame de Paris?
Esmeralda.
Exactement.
Oh, mais, c'est pas chaud.
Otili, parce que d'habitude c'est Clément là. On l'a senti un petit peu plus éteint. Otili, je pense que. C'est...
Ah, mais là, il y a
est-ce que
photo,
Lucie t'avait donné les questions
avant de.
On va commencer à avoir de légers doutes parce que bon, Otili, t'as quand même raclé 5 points. En fait, t'as pris le rôle de Clément puisqu'il a eu rien du tout.
Je tiens à dire que j'ai dit Londres en deuxième réponse, moi.
Bah oui, mais il avait redonné la
non,
réponse
avant. Non, pas avant.
Enfin, c'est Otili qui nous a écrasé cette fois.
Si tu veux me voler des points, ça ne dira rien.
Je crois que t'as une quarantaine de points, je crois. Puis 37. Nous, on en a 5, 6, ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. On est à la bourre, mais c'est pas grave. Tu nous parles de l'artiste de la semaine, Naïm. Je vais pas le prononcer parce que sinon ça va être compliqué.
Angsty Camboys Revenge.
Exactement,
je le refais une deuxième fois, mais c'est la dernière fois. Un groupe de musique composé dans le belge et en français, dont le style musical est un peu perdu quelque part entre la trap, la musique électronique et la pop. La production est principalement assurée par le français, qui est connu sous de nombreux pseudonymes différents, comme Wasting Sheet, Bob Glock, FDO38 ou K$38.
Ah, d'accord, ok.
Et le belge, qui est connu en tant que Erwalou, Tommy Moisy, Amor Fati ou SP, utilise principalement sa voix qui complète celle de Bob Glock dans la plupart de leurs morceaux. Alors, je me suis peut-être un peu trompé dans les pseudos, il y en a un peu trop pour que je sache qui est qui, mais j'ai essayé. De nombreux thèmes reviennent fréquemment dans leurs morceaux, comme les jeux vidéo, l'amour, la drogue et une vision assez négative de la vie. Et c'est aussi ce qui rend leur musique intéressante, c'est que la combinaison de paroles très sombres et de mélodies un peu joyeuses, qui trouvent un équilibre un peu, un juste milieu, on pourrait dire. Ouais. Et ce juste milieu, c'est des morceaux comme Fou du Roi qu'on va écouter maintenant.
22, on va.
L'H-Bet sur RCN.
Il est 14h24 sur RCN, vous êtes bien dans l'H-Bet. Alors on a fait un quiz de culture générale il y a quelques instants, déjà pour nous réveiller un petit peu. Là vraiment, là, je crois que tu vas nous retourner un petit peu le cerveau. Et tu voilà. L'as dit que l'énigme était assez particulière.
Ah mais vous allez vite comprendre, enfin bref, on va vite se lancer dans dans la bouffe, on va dire, hein, tout simplement pour parler comme ça. Alors je vous dis que moi je veux, et je suis très chiant, hein, je suis vraiment au détail près, je veux... des sandwichs, ok.
Oui.
Et je veux un sandwich composé de 2 tranches de pain, ok. Je veux aussi 1,5 tranche d'emmental et un demi cornichon avec du pain bien beurré, d'accord.
Ouais.
Et maintenant, je vous dis que vous avez dans votre placard 153 tranches de pain, 87 tranches d'emmental et 28 cornichons avec aussi 95 pommes de terre, parce que pourquoi pas. Et je vous demande combien de sandwichs vous allez pouvoir me faire qui me satisfassent. Alors je peux vous répéter les
données. Combien il y a de cornichons?
Je veux juste
Il y a 28 cornichons. Et ben on peut faire 28 cornichons.
J'ai arrêté de réfléchir après
156. Il faut
non, 2 fois 28 est égal 56.
Je sais pas, j'ai pas écouté.
Ça fait 56.
Alors, ça aurait été 56 s'il y avait pas un piège, parce que vous avez pas de beurre.
Et moi, je veux du beurre. Je veux du pain bien beurré.
Et on en a donc,
pas bah, non, Normandie, on n'a pas de beurre. Je vous ai dit. Enfin, je vous ai pas cité dans la liste aussi. Des ingrédients que vous aviez du beurre, alors que je voulais du pain bien beurré.
Zéro, donc
vous êtes... zéro. Donc vous êtes un peu fait avoir, mais si on faisait les calculs, alors c'est Martin qui aurait raison. Ouais, on aurait 56 sandwichs. Mais bon, pas de beurre, moi j'en mange pas. Hein.
Bon, bon, t'es compliqué aussi.
Oui, tu ne mangeras pas. Voilà. Bon, de toute façon, moi j'avais pas très faim, alors là. Ça va encore. Merci Alan pour cette énigme. Allez, on termine avec la citation, Clément. Une citation d'un film de
oui,
mémoire.
La citation du film Le Père Noël est une ordure. Eh bien, dans cet extrait, bien, Thérèse offre un cadeau à Pierre pour le moins spécial.
Joyeux Noël, Pierre.
Ah, c'est pour moi ? Ah. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez.
Non, Pierre, c'est un gilet.
Ah oui ? Ah, ben bien sûr. Ah mais alors bien sûr c'est un gilet, il y a des trous plus grands pour les bras. Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi, Thérèse.
Voilà, voilà, bien belle citation.
Ça fait du bien de la revoir.
Oui, un film occulté, exactement. Merci Clément pour cette citation. Voilà, ça conclut cette bien belle émission. On se retrouve donc la semaine prochaine, la dernière avant les vacances pour nous, c'est vrai. On sera déjà mi-avril. Et puis, on retrouvera pas Lucie, malheureusement, la semaine prochaine, parce qu'on enregistre à chaque fois deux émissions à la suite. Donc, je reprendrai encore le quiz de Culture Générale. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à la semaine prochaine, l'équipe.
À la semaine prochaine,
salut,
Martin.
Salut.